Audible Studio présente Les Chroniques de Nietzsche, tome 2 Le linceul de l'éternité de Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire. Chapitre 1er. Au soleil, la chair humaine à demi pétrifiée avait par endroits des reflets mauves répugnants. Dans leurs orbites, les yeux fondus évoquaient une immonde gelée, à cause des joues fendues jusqu'aux articulations de la mâchoire, une mutilation rituelle, la bouche béait anormalement. Au début, Nietzsche n'avait pas senti la puanteur dans l'air frais de la montagne. Tirant sur sa robe noire de voyage, elle recula un peu et continua à étudier les quatre têtes plantées sur des pics, deux de chaque côté de la voie. Le sort de préservation faiblit, dit la magicienne placide. Si répugnants fussent-ils, les spectacles morbides ne l'impressionnaient pas. J'ignore depuis quand ces têtes servent d'avertissement, mais elles n'en ont plus pour longtemps, et l'odeur attirera davantage d'oiseaux et d'insectes. Quand elle se tourna vers ses compagnons, la brise fit volter les cheveux blonds de Nietzsche. Une main sur le pommeau ouvragé de son épée, Nathan Rahl avança pour mieux voir les têtes. Naguère prophète et sorcier, le très vieil homme avait perdu son don après que Richard eut scellé le voile du royaume des morts et provoqué le changement stellaire. Ce bouleversement radical de l'univers avait éradiqué les prophéties et bouleversé les règles de la magie, avec des conséquences dont l'étendue restait encore à découvrir.
« Vivant !» dit Nathan. « Les Norukai ne sont déjà pas mon genre !»
Du pouce et de l'index, il pinça son menton rasé de frais.
On ne peut pas dire que la mort les arrange.
Nietzsche se souvint de l'attaque contre Renda sur Bay, un village de pêcheurs lancé par les esclavagistes. Les maisons brûlées, les morts, les dizaines de captifs. Un soir, de puissants navires, une tête de serpent en guise de figure de proue avait fondu sur la plage, leur voile bleu nuit guidée par la magie. Pour ressembler à des serpents, les Norukai s'élargissaient la bouche, recousant leurs joues fendues et se tatouaient des écailles sur la peau. Déchaînant sans retenue sa magie, Nietzsche avait rejeté les assaillants à l'eau. Pour contribuer à la victoire, Nathan et Bannon, leurs jeunes compagnons, avaient ferraillé d'abondance. Alors que Nietzsche et les deux hommes se préparaient à s'engager sur la voie qui descendait vers la vallée, une question tournait en boucle dans leur esprit. Pourquoi avoir disposé des têtes coupées ici, si haut dans la montagne et si loin de toute civilisation? Aux yeux de Nietzsche, ça n'avait aucun sens.
« Je hais les Norukai !»
marmonna Bannon, les yeux brillants de rage. Sa voix rauque faisait un écho convaincant au grognement de Mra, la panthère du désert qui tournait encore en rond autour des pics.
« Je les hais à cause de ce qu'ils ont fait à nos amis de Renda sur Bay, bien sûr, mais... plus encore pour leur raid sur mon île, Shiria, où ils ont enlevé mon ami Yann, et ils ont essayé avec moi. »
D'un revers de la main, Bannon essuya la poussière qui perlait sur son front, puis il repoussa en arrière sa longue crinière rousse. Furieux, il flanqua un coup de pied dans une pique qui s'inclina aussitôt car elle n'était pas profondément enfoncée dans la terre. La tête pourrie tomba, roula sur le sol et percuta un rocher avec un bruit sourd. S'ouvrant en grand, la mâchoire se scinda en deux. Le sort de préservation annulé, la décomposition s'accéléra comme pour attraper le temps perdu. Nietzsche regarda la peau liquéfiée couler lentement sur les os blanchis du crâne. Les yeux suivirent le même chemin, ne laissant que des orbites vides et une puanteur sans nom. Penaud, Bannon observa le résultat de son coup de colère. Puis il eut un sourire de prédateur. Décidé à faire subir le même sort aux trois têtes restantes, il se pétrifia quand Nathan leva une main pour l'en empêcher.
« Tout doux, mon garçon, il serait judicieux de réfléchir. Ceux qui ont placé ici ces avertissements devaient avoir de bonnes raisons, et comme tu le sais, les esclavagistes ne sont pas nos amis. »
Les narines pincées, le vieil homme ne sembla pas plus perturbé que ça par l'odeur ou la vue de la mort.
« En toute logique. » Les gens qui ont décapité puis exposé ces Norukai doivent être nos alliés, ou au moins les ennemis de nos ennemis. Pourquoi risquer de les courroucer ?
Bannon tapota nerveusement le pommeau de solide, sa fidèle épée.
Douce mère la mer, je n'avais pas pensé à ça.
Ne pas assez réfléchir, mon garçon, c'est le défaut parfois fatal de beaucoup d'aventuriers. Et puisqu'on parle d'aventure, je parie que beaucoup d'autres nous attendent en chemin. »
Nietzsche se montra moins conciliante.
« Mes compagnons doivent toujours réfléchir avant d'agir. À long terme, ça nous épargnera bien des problèmes. »
La panthère du désert approcha de la tête en bouillie, la renifla, plissa la truffe de dégoût et grogna, sa queue battant rageusement l'air. Les symboles qui couraient sur la peau de la panthère, des runes gravées au fer rouge, ressemblaient étrangement à ceux qui figuraient sur la pancarte accompagnant la première tête. Oubliant Bannon et ses incartades, Nietzsche sonda la piste sinueuse qui s'ouvrait devant elle, une voie jadis très passante mais aujourd'hui presque recouverte par la végétation. Tout au bout se dressait la superbe ville que la magicienne et ses compagnons avaient aperçue depuis le col de montagne nommé Col Adair, une étrange cité qui, tel un miracle, apparaissait et disparaissait selon les heures.
« Au lieu de nous arrêter pour manger, » dit Nietzsche,
l'estomac retourné par la puanteur,
« je propose de nous restaurer en marchant. Avant la tombée de la nuit, il nous reste du chemin à parcourir. »«
Je suis très pressé de découvrir cette ville, » dit Nathan, « même si nous ne savons pas par où commencer lorsque nous y serons. »«
Mais on s'efforcera de bien faire, » dit Bannon. « Si ça t'aide à retrouver ton don, Nathan, nous nous en réjouirons. »
Le vieil homme décrocha son sac de son épaule et en sortit de la viande séchée qu'il transportait avec eux depuis surplomb du monde.
« Et n'oublie pas, fiston, que trouver cette ville peut aussi aider Nietzsche à remplir sa mission, qui est quand même de sauver le monde. »
Captant l'ironie de Nathan, Nietzsche eut un ricanement peu amène, puis elle se remit en chemin.
« Je n'ai jamais accordé le moindre crédit à ce qu'une voyante me dit de faire, »
lâcha-t-elle.
« Les prédictions et les intuitions se révèlent parfois exactes, mais jamais de la façon qu'on attendait. »
La magicienne se tourna vers l'ancien sorcier aux cheveux blancs.
« Tu pensais retrouver tes pouvoirs dès que nous serions à Col Adair. Hélas, ce n'était que la première étape. »«
Certes, mais à présent, nous savons que Rouge n'a pas menti. En revanche, nos extrapolations ont tout brouillé. Le message, dans mon livre de vie, dit que je verrai ce qu'il me faut pour redevenir entier. Je n'ai pas été assez attentif, voilà tout. Désormais, nous connaissons le véritable sens des mots de Rouge. »
« Au minimum, nous avons une idée de ce que sera la prochaine étape, »
concéda Nietzsche. Penser à la voyante et à ses mystères à 3 sous suffisait à lui donner la nausée. Avant qu'ils quittent les terres noires pour se lancer dans leur longue quête, Rouge avait écrit quelques mots dans le livre de vie de l'ancien prophète. « L'avenir et le destin dépendent à la fois du voyage et de la destination. Col Adair est très loin au sud dans l'ancien monde. » À partir de là, le sorcier verra ce qu'il lui faut pour redevenir entier, et la magicienne devra sauver le monde.
« Ton rôle dans tout ça semble très clair, » dit Bannon en emboîtant le pas à Nietzsche. « Ta mission est de sauver le monde. Que peut-il y avoir de plus important que ça? Nous devons suivre les instructions de Rouge, et tu es la personne qu'il faut pour cette mission. »
Tandis que Mra filait dans les collines, sur la piste d'une proie, la magicienne s'immobilisa et lâcha «
« La personne qu'il faut n'a pas besoin d'une obscure prédiction pour lui dire de sauver le monde. Si c'est la chose à faire, elle agit, et voilà tout. Et si elle agit, c'est pour le seigneur Rall. »
Nietzsche épousseta le devant de sa robe noire, puis bomba le torse.
« Bien sûr que je suis la personne qu'il faut. »
Ancienne sœur de l'obscurité et magicienne toujours très puissante, Nietzsche se dévouait corps et âme à la cause de Richard Rall. L'aimant plus que tout au monde, elle lui resterait à jamais fidèle, mais elle avait dû se résigner. Pour Richard, seul Callan comptait. Et contre cet amour, aucune femme, fût-elle la maîtresse de la mort, ne pouvait rien. En revanche, il lui restait possible d'offrir sa loyauté à Richard. En Dara, quelque temps plus tôt, Richard et Callan avaient blêmi en entendant Nathan clamer son intention d'aider les peuples des Terres Noires victimes de la guerre. Trop dangereux pour être laissé en liberté, le vieux sorcier était resté prisonnier 1000 ans au palais des prophètes. Après son évasion, il s'était battu comme un lion pour Dara. Se bombardant lui-même, ambassadeur itinérant, il avait demandé l'autorisation de partir à l'aventure. Si le sorcier à la belle prestance n'était pas un crétin, loin de là, il restait sur bien des points un enfant en quête d'excitation. Conscient qu'il se mettrait dans les ennuis jusqu'au cou, Richard avait demandé à Nietzsche de partir avec lui et de le protéger. Même si ça devait lui coûter la vie, la magicienne aurait fait n'importe quoi pour le sorcier. Les choses étant ce qu'elles étaient, elle avait compris que partir était la meilleure façon d'aider l'élu de son cœur et de s'épargner de cruelles souffrances. Résolue à reconstruire le monde, elle allait commencer par les coins les plus reculés de l'Empire d'Aran. En agissant ainsi, elle soutiendrait Richard et continuerait à l'aimer sans risquer de lui nuire. Tôt ou tard, l'armée de Dara, désormais dévouée à la cause de la paix, se déploierait au sud pour y établir des avant-postes. En attendant, Nietzsche serait une sorte d'éclaireuse, assez forte et confiante pour résoudre les problèmes de ces contrées encore sauvages. Si elle faisait bien son travail, et comment aurait-il pu en être autrement, le seigneur Rall et ses troupes n'auraient pas à intervenir. Les pins devenant plus rares à mesure qu'on descendait, les trois voyageurs s'enfoncèrent dans un épais maquis où les buissons d'épineux, pris d'assaut par des nuées de bourdons, se révélaient souvent aussi hauts que des arbres. Par îlots très denses, des chênes aux feuilles sombres se dressaient sur les pentes des collines. De ci, de là, un vol de sauterelles frôlait la tête des voyageurs et des serpents dérangés par leur passage se glissaient sans bruit entre les rochers pour leur échapper. Mara gambadant loin devant eux, Nietzsche et ses compagnons mirent toute la journée à négocier la première pente. À la nuit, ils campèrent dans un val où courait un ruisseau. Très habile, Bannon réussit à pêcher à la main 5 truites dont ils firent leur ordinaire. Enfin, en partie, puisque le jeune homme offrit les 2 plus petites à Mra qui s'empressa de les engloutir. « Magicienne !» demanda Nathan en s'asseyant près du feu que Nietzsche avait allumé avec son pouvoir. « Combien de temps nous faudra-t-il pour atteindre la ville, selon toi ?»«
En supposant qu'elle existe, » répondit la jeune femme.
Arrivés à Kolader, ils avaient vu dans le lointain les tours et les toits sophistiqués d'une splendide ville, mais cette image avait été fugitive.
« Il peut s'agir d'une illusion ou d'une projection très éloignée. »
Nathan secoua la tête puis appuya le menton sur une de ses mains.
« Nous devons croire qu'elle existe. C'est elle que j'ai vue depuis Kolader, mot pour mot ce que Rouge a écrit. Il faut que ce soit réel. La voyante l'a dit. Nous marcherons aussi longtemps qu'il le faudra. »
Comme s'il se sentait honteux, le vieil homme détourna le regard.
« Nietzsche, je dois retrouver mon don et c'est mon seul espoir. »
Près du ruisseau, Bannon étendit son manteau sur un lit de feuilles mortes, puis se coucha dessus.
« Bien sûr qu'on la trouvera, ta ville, si on se reposait en attendant. »
Il étouffa un bâillement.
« Je peux prendre le 2e tour de garde ?»«
Ce sera inutile, »
dit Nietzsche en s'installant à son tour un nid douillet. Elle chercha le regard de la panthère du désert avec qui elle avait un lien qu'elle seule comprenait.
« Mra veillera sur nous. » Donc nous pouvons dormir à point fermé. Avec elle comme sentinelle, il ne nous arrivera rien.
Le lendemain, les 3 voyageurs durent grimper jusqu'à la crête suivante, reprenant toute l'altitude perdue la veille. Nietzsche aurait parié que la ville se trouvait au-delà de cette élévation, dans la grande plaine qui s'étendait à son pied. À midi, après s'être frayé un chemin dans un maquis encore plus dense que le précédent, ils atteignirent le sommet et sondèrent le terrain qui s'ouvrait devant eux.
« Esprit bien-aimé !»
souffla Nathan. Bannon écarquilla les yeux, fasciné. Au-delà des contreforts, une vaste plaine se terminait abruptement sur un à-pic vertigineux. De leur position, on distinguait le large cours d'eau qui coulait au pied de la falaise. Vu de haut, on eût dit que cette moitié du paysage avait été surélevée.
Hélas, il n'y avait pas l'ombre d'une ville.
L'extraordinaire mégalopole aperçu depuis Kolader brillait par son absence. Cela dit, la plaine n'était pas déserte, oh que non. Au contraire, une armée l'occupait, assez nombreuse et puissante pour rivaliser avec les plus grandes forces que Nietzsche avait vues quand elle servait l'empereur Jagang. Personne ne pouvait mieux qu'elle évaluer le potentiel destructeur d'une telle horde.
« Il y a au moins 500 000 de guerriers, »
dit-elle les yeux plissés. Comme s'il tentait d'estimer combien d'hommes à la fois il pouvait combattre, Bannon tapota le pommeau de son épée.
« Dans ce cas, magicienne, je suis ravi que tu sois là pour sauver le monde. »